Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, le débat des grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Julien.
Emmanuel Ducrot, éditorialiste et journaliste à l'Opinion. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien.
Et l'historien Jean Garrigue. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Et on reparle donc ce soir de la taxe Covid. Faut-il demander un effort à ceux qui n'ont pas été impactés par la crise? L'endettement généré par le Covid et les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pose la question du remboursement. Le gouvernement exclut toute hausse d'impôts à ce stade, mais pourra-t-il tenir sur cette ligne? Car cette dette, il va bien falloir la rembourser. Écoutez Bruno Le Maire, le 4 septembre dernier, ce qu'il disait. Moi, ministre de l'économie?
Tant que je serai ministre de l'économie, des finances, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en France. C'est l'engagement que j'ai pris à plusieurs reprises devant les Français, qui a été confirmé par le Premier ministre et par le président de la République. La seule politique qui vaille, c'est celle qui permet de relancer notre économie, développer l'emploi dans les entreprises et baisser les impôts des ménages comme des entreprises.
Alors, taxer les plus aisés pour financer la relance et réduire les inégalités, bonne ou mauvaise idée, Emmanuel Ducrot?
Déjà, il faut se poser la question de l'équation de base, hein, la dette Covid. Je vais aller faire un petit peu les comptes avec mes collègues spécialisés cet après-midi à l'Opinion.
Oui.
250 à 300 milliards d'euros, à peu près, on ne sait même plus exactement où sont les contours de cette dette Covid. Alors effectivement, elle est bien supportée par la BCE, les taux sont bas, elle ne nous coûte pas grand-chose cette dette, mais il y a quand même un moment où il va falloir la rembourser. Alors sur qui est-ce qu'on s'appuie sur la rembourser?
Le déficit a explosé, hein. Il approche des 120% du PIB.
Donc tout ça, il va bien falloir le rembourser à un moment ou à un autre. Alors les plus riches, les plus riches, si on se focalisait par exemple sur l'idée de l'ISF, ça rapporte 3 milliards par an.
Oui.
300 milliards de dettes, 3 milliards pour l'ISF. Donc, autant dire que c'est une goutte d'eau dans cet océan-là. C'est sans doute sur les classes moyennes que ça va porter. Mais les classes moyennes, c'est quand même, elles ont été toutes très affectées par cette crise Covid. Donc, où est-ce qu'on va aller chercher l'argent? Moi, je ne crois pas qu'on ne pourra pas augmenter les impôts, mais ça va faire très, très mal fiscalement.
Oui, et puis on voit en même temps les inégalités qui sont l'un des révélateurs de cette crise et des vecteurs d'accroissement des inégalités. Hein. Cette crise rend les gens de plus en plus pauvres. 10 millions de précaires d'ici à la fin de l'année, nous disent aujourd'hui les associations. Est-ce que le principe du modèle français basé sur la solidarité nationale doit s'appliquer, Catherine Ney, avec une espèce de taxe Covid? Peut-être pas pour les classes moyennes d'ailleurs, mais pour les plus riches.
Ah ben ça, de toute façon, je vais vous dire, faire payer les riches, c'est un sujet récurrent en France. Moi, je ne connais pas une campagne où d'un côté, c'est très clivé droite-gauche, la droite, c'est toujours moins d'impôts parce qu'on est quand même le pays le plus imposé, là où on paye le plus, où d'ailleurs l'impôt sur le revenu taxe le moins de gens, et donc c'est la classe moyenne et supérieure qui paye l'impôt sur le revenu. Et quant à l'impôt sur la fortune, depuis 1981, ça paraît, ça revient, ça repart. Enfin, on pense que c'est, pour la gauche, c'est vraiment le sujet. Oui. Vous écoutez Thomas Piketty, fait des livres de 600 pages pour expliquer que c'est la solution et qu'il n'y en a pas d'autre. Vous voyez, donc c'est un sujet qui va revenir forcément là, alors qu'on s'approche de la présidentielle, ça va revenir. Alors qu'il y a un sujet qui n'est jamais abordé.
Lequel?
Qui commence. Eh bien, c'est que l'État, je veux dire, en étant endetté, on fait payer des impôts à cause de cette gabegie de l'État qui est de plus en plus compliquée. On ne peut pas faire les choses simplement avec les strates qui s'empilent.
Et alors, à chaque fois, la gabegie de l'État, quand on a voulu toucher à l'hôpital, on s'est aperçu 5 ans après que l'hôpital, on en avait besoin.
Eh bien, c'est pareil à peu près pour tout.
Oui.
Pour tout. Donc, la droite dit toujours on va remettre de l'ordre, ce qu'elle ne fait jamais.
Oui.
Et la gauche dit on ne remet pas d'ordre, mais on fait payer les riches.
Alors,
c'est toujours la même chose.
Il y a quand même un rapport du Sénat qui donne du grain à moudre aussi à l'opposition, et notamment à gauche. C'est sur la suppression de l'ISF. On ne voit pas, nous disent les sénateurs, qu'on ne peut pas taxer d'être à gauche, puisque la majorité est à droite. On ne voit pas particulièrement, disent-ils, de ruissellement à ce stade sur l'économie. En revanche, nous dit ce rapport, la réforme d'Emmanuel Macron a rapporté 1,7 million d'euros à chacun des 100 Français les plus riches. Donc il y a quand même un sujet sur l'impact de la suppression de l'ISF. Alors, faut-il recréer un ISF? Je ne sais pas, mais la question de la taxation des plus riches se pose à l'aune de ce rapport. Jean Garrigue.
Oui, c'est vrai qu'il y a un sujet, incontestablement. D'ailleurs, c'est un sujet qui se pose toujours dans les périodes de crise, si on remonte à la crise de 1929, à ce qu'avait été la politique de Franklin Roosevelt, je suis historien, et ça me vient tout de suite à l'esprit. Bon, il y avait eu effectivement une politique de taxation des riches très, très importante, qui avait été une contribution, et ce n'était pas la seule d'ailleurs, au redressement de l'économie américaine, qui s'était d'ailleurs surtout redressé grâce à la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Mais donc, c'est un vrai problème qui se pose. Et évidemment, la gauche s'en empare parce que ça fait partie de son ADN. Et c'est vrai qu'il y a des projets qui peuvent apparaître comme relativement crédibles quand il s'agit de taxer les 1% des plus riches, y compris d'ailleurs des projets qui concernent toute la zone euro, enfin l'Union européenne. Ça peut être, ça me semble totalement irréalisable à l'échelle européenne, étant donné ce qu'est aujourd'hui, on le voit bien, l'Union européenne.
1% les plus riches, c'est quand on gagne plus de 6 000 euros par mois.
C'est
par
ça.
Personne.
Oui, et c'est surtout peut-être sur le patrimoine qu'il faut raisonner. Ce sont des patrimoines à 200 millions d'euros.
Oui.
Donc ça concerne déjà des très riches.
Oui.
Là, les classes moyennes ne sont pas touchées. Donc ce type de réflexion, on peut la mener, sachant qu'évidemment, on est toujours dans cet équilibre entre ce qui est de l'ordre de la solidarité, de l'équilibre social, de l'harmonie sociale, et puis aussi, de l'autre côté, eh bien, le pragmatisme économique qui fait que si vous taxez les riches s'en vont, et les capitaux aussi.
Oui, 18h39, on continue d'en parler avec les grandes voix du jeudi. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41, le débat des grandes voix du jeudi avec toujours Catherine Ney, Emmanuel Ducrot, éditorialiste et journaliste à l'Opinion, et Jean Garrigue, historien, qui nous accompagne ce soir dans le débat des grandes voix. On parle de cette taxe Covid qui rebondit, le débat rebondit. Évidemment, comment rembourser la dette Covid? On en parle donc ce soir avec les grandes voix. Alors, vous disiez, Catherine Ney, que c'est vrai que la France est un des pays où les prélèvements obligatoires et notamment les impôts sont les plus importants, mais en même temps, l'argent est là. L'argent est là, Catherine Ney, car les Français ont épargné 50 milliards d'euros qui dorment en ce moment sur les livrets.
Oui, mais ça, ce n'est pas les plus riches. C'est les classes moyennes, parce que, évidemment, c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et, bon, mais pendant le premier confinement, ils n'ont pas dépensé parce que tout était fermé, et puis ils n'y avaient pas le cœur, ils n'ont pas eu le temps de consommer. D'ailleurs, la consommation reprenait un peu cet été,
oui.
Et puis elle est à nouveau stoppée. Donc, ce qu'il faut, c'est évidemment que si on va vers le déconfinement et au moment de Noël, on verra si l'activité reprend, si les gens dépensent. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire pense qu'une des solutions de l'endettement, c'est aussi par la croissance. Et la croissance, on sait qu'en France, elle se fait par la consommation.
Oui.
Donc, on espère qu'après cette privation, les gens retrouveront de l'optimisme, enfin, ceux qui ont un travail, parce que ça va être...
En tout cas, les Français, voilà. Eux, ils ont bien intégré, hein, parce que pour 86% d'entre eux, je regardais un sondage qui est paru, fait par l'IFOP, justement pour votre journal, Emmanuel, pour l'Opinion, 86% des Français ont intégré que la dette actuelle sera remboursée par les hausses d'impôts, donc... Ils savent bien qu'à la fin, c'est les Français qui paieront, Emmanuel Ducrot.
Je pense que c'est une évidence. Enfin, je veux dire, les Français savent aussi ce que c'est que d'avoir une dette personnelle et qu'elle se rembourse. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas comparer les ménages et les États, mais enfin, une dette, ça s'honore. C'est une évidence.
Mais vous parliez tout à l'heure de la réduction du fonctionnement de l'État, les fameuses économies sur le train de vie de l'État.
Oui.
Il y a encore des leviers où on peut aller chercher, parce que des plans de modernisation de l'État, il y en a eu
des centaines.
Une dizaine.
Je vous rappelle qu'il y avait quand même un plan de réduction du nombre de fonctionnaires qui a été abandonné très récemment.
Avait dit Emmanuel Macron sur le quinquennat.
Mais c'est
est-ce
fini.
Qu'on peut supprimer des fonctionnaires quand on voit les manques qu'on a aujourd'hui à l'hôpital?
Alors écoutez, l'hôpital, je pense que c'est un cas à part et que c'est pas forcément à l'hôpital que ça va se jouer, mais on a une fonction publique territoriale, par exemple, qui est totalement hypertrophiée.
Oui.
C'est du délire. Et je pense que quand on s'intéresse au fonctionnement de la machine administrative française, on voit un empilement ahurissant de normes, de procédures qui sont paralysantes et qui sont handicapantes pour absolument toute l'économie.
Oui.
Alors effectivement, ça va être douloureux. Il va falloir probablement tailler dans des choses qui se sont accumulées au fil des années. Mais on a un État qui aujourd'hui n'est pas seulement consommateur d'argent et de ressources. On a un État qui handicape le fonctionnement du
pays.
Donc
vous dites pas les impôts, mais plutôt
un peu les deux,
des réductions du coût du train de vie de l'État. Jean Garrigue.
Pierre Moscovici, qui ne se posait pas ces questions quand
le
il était ministre des Finances,
de la Cour des comptes.
Mais aujourd'hui, il dit « Je n'arrive pas à me résoudre à l'idée que nous serions le seul pays européen où la recherche de la meilleure politique au meilleur prix serait considérée comme péjorative. »
En même temps, il est dans son rôle. C'est le garant.
Oui, mais il dit une vérité aussi.
Des bonnes défenses
de
l'argent public.
On voit bien que la suradministration étatique est hyper centralisée, qui est un mal français, a fait beaucoup de mal, y compris dans la lutte contre la pandémie. Le manque de masques, les exemples abondent. Donc ça fait partie, évidemment, des solutions. Ça fait partie des solutions, d'ailleurs, proposées par Bruno Le Maire. Mais encore faut-il que les politiques aillent jusqu'au bout de leur projet, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, que ça ne soit pas une logique arithmétique comme c'était, ça avait été tenté par Nicolas Sarkozy à l'époque. Oui. Et on voit bien les limites de ce type d'amincissement de la bureaucratie française. Mais c'est vrai que sur la gestion des collectivités territoriales, par exemple, on sait bien que là, il y a d'énormes économies d'échelle à réaliser.
Alors, je vais vous poser la question peut-être autrement. Au-delà de l'intérêt économique d'instaurer une forme de taxe pour les plus riches sur le Covid, est-ce que politiquement, le gouvernement va pouvoir en faire l'économie, Catherine Ney ? Un pays qui va sortir de cette crise plus fracturé que jamais, avec des inégalités très fortes, est-ce que la campagne de 2022, le gouvernement et Emmanuel Macron, va pouvoir échapper à ce débat ?
Sûrement pas. D'ailleurs, la gauche commence à entendre, en tous les cas, la France insoumise, qui déjà parle d'un impôt sur la fortune. Mais ça va revenir parce que ça revient dans toutes les campagnes. Oui. Et là, Emmanuel Macron, il a joué en même temps, il a gardé l'ISF, un petit bout, pour l'immobilier, puis il a supprimé. Voyez, il a fait du en même temps.
Oui.
Et malgré ça, il est appelé le président des riches. Oui. Voyez bon. Donc, ça va revenir dans sa campagne, il va être taxé de président des riches, et ça va être un des axes de la campagne futur.
Emmanuel Ducrot.
On va certainement en reparler. Il faut bien avoir conscience qu'on n'est pas du tout en train de débattre d'un sujet d'utilité fiscale ou d'utilité budgétaire. On est en train de parler d'un symbole.
Oui.
Ça n'est rien d'autre que ça. C'est un symbole.
Bien. Après, ça dépend. Ça dépend du niveau d'impôt, parce que si on revient à François Hollande et ses 70%, ça peut commencer à rapporter gros. Jean Garrigue.
Complètement d'accord. Mais
qui n'a pas été appliqué.
Qui n'a pas été appliqué.
Quand on voit le mal qu'a fait la réforme de l'ISF à l'image d'Emmanuel Macron, quand on voit qu'aujourd'hui 70% des Français sont favorables à un impôt sur la fortune et un rétablissement en fait de l'ISF, ça va être un sujet et un enjeu majeur, d'autant plus que si l'on écoute ce qui a été dit par Emmanuel Macron, on est quand même là dans un nouveau chemin, et dans un chemin plus protecteur, plus interventionniste, et très, très clairement on tourne le dos à une forme d'orthodoxie libérale qui était plutôt la ligne originale du quinquennat. Donc il va se passer des choses sur ce front-là. Le sujet va être posé, et je pense que Emmanuel Macron sera obligé d'y répondre d'une manière un peu différente que ce qui s'est passé au début.
18h47, vous restez avec nous, on continue de débattre avec les grandes voix et on parlera de l'isolement des malades de la Covid. Faut-il les forcer à s'isoler, ces malades ? C'est le projet, dit-on, du gouvernement. À tout de suite.
Europe 1.